Marcel Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
De la nuit, au clair de lune, gémit. La brise fait de son archet chanter la valse des regrets. Ma belle enfant du bois dormant, quittez vos rêves troublants. Vous éveillant pour un instant, venez à moi. Le fils du roi n'est qu'un manant, ce n'est que moi, pauvre passant, chantant les mots d'une prière vaine. L'ombre s'alanguit, des formes glissent sans bruit, et du passé, couple lassé, les souvenirs s'en vont danser. Les doigts frileux du sol bleu dressés au ciel comme un appel au sort cruel. Rythme tout femme m'appelle. Oh, loin du château, loin de l'austère repos. Venez, venez, vous qui dormez, voici pour vous l'instant d'aimer. Ce château-là, c'est mon cœur-là, c'est vous mon serre, passant dans l'air, ce n'est que là.
Bonjour Gisèle.
Bonjour Patrick.
Et bonjour à tous. Bonjour Pauline.
Bonjour à tous. Bonjour Pauline.
Eh bien, qu'est-ce que nous avons entendu ? Une belle valse, mais répétée.
La valse de Brahms.
La valse de Brahms,
numéro
oui.
15, la numéro 15.
La numéro 15.
Et elle a été suivie par une chanson. Bah, elle était un peu vieille, cette chanson. C'était Georges Guettari qui chantait, bien évidemment, la valse numéro 15 de Brahms.
La valse numéro 15 de Brahms, opus 39. Il y avait 16 valses, oui. Et c'est la numéro 15.
C'est la numéro 15.
Elle date de 1865.
Oui, 1865.
Et la version moderne, ben c'est, disons, c'est après la guerre, on va dire.
Oui, oui, dans les années 50, je pense.
Avec la voix de Georges Guettari, ce chanteur d'origine grecque,
oui,
d'ailleurs,
c'est ça.
D'origine grecque. Alors, Brahms, c'est un drôle de nom, ce Brahms.
Oui, ça veut dire quoi, Brahms ?
Alors, Brahms, c'est un mot allemand d'abord. Mm-hmm. Brahm, sans S, c'est le genêt en allemand.
D'accord.
Le genêt. Et puis avec le S est ce qui reste du mot son, qu'on trouve en anglais, Johnson, qui
oui,
veut dire
oui.
fils d'eux, oui. ou Sohn en allemand. C'était à l'origine, le mot, c'était Brahmsohn. Brahmsohn, littéralement, oui. hein, pas fils de genêt, mais
oui.
un peu c'est ça.
Oui.
Bref, et donc voilà pourquoi il y a ce S. Nous on dit Brahms, et les Allemands le prononcent Brahms, ils accentuent le A, parce que c'est une voyelle
D'accord.
qui est suivie d'un H. Voilà.
Donc c'est la force du A.
C'est ça, la force du A. Et voilà. Donc Johannes Brahms, qui est un Allemand du Nord, mmh. qui est né à Hambourg, sur l'Elbe.
Oui,
le
c'est
grand
vrai.
Port,
c'est vrai.
Le
ah, oui.
grand port, jumelé avec Marseille aussi.
Oui.
Voilà. Et dans Hambourg, 7 mai 1833. Et puis ensuite, il a quitté Hambourg, qu'il avait un peu rejeté.
Mais c'est-à-dire qu'il pensait devenir le directeur de,
oui.
de je ne sais plus quel établissement, mais il n'a jamais été accepté à Hambourg. Ce n'était pas la ville qu'il a le plus accueilli. Pourtant, il était natif de Hambourg.
Il était natif de
Alors
Hambourg.
Qu'à Vienne, ça s'est super bien passé plus
voilà,
tard.
Voilà, ça s'est super bien passé.
Ouais, ouais.
Il aurait voulu être directeur de la Philharmonique
c'est ça, voilà,
de Hambourg.
D'Hambourg.
Et il a été préféré à d'autres.
Voilà,
bon,
ouais.
Son caractère, peut-être. Son caractère.
Oui, parce que l'ancien directeur avait été... il avait arrêté son
c'est
métier.
Ça, c'est ça.
Et il pensait prendre la place.
Voilà.
Et non.
Et non. Donc, il a été déçu. Et en 1862, eh bien, c'est le Danube qui a remplacé l'Elbe,
c'est ça,
on va
voilà.
dire.
Ouais.
Il est parti à Vienne. Vienne, la ville de la musique. Hein. Les danses de Strauss. Et c'est là qu'il a aussi composé les fameuses danses hongroises.
C'est ça.
Car qui dit Vienne dit la Hongrie, l'Europe centrale, l'Autriche-Hongrie, les Balkans. Il y a un peu d'histoire aussi qui nous concerne encore.
Ça nous concerne
avec
toujours.
Avec l'Europe
oui.
centrale.
Mm-mm.
Voilà. Donc il a quitté Hambourg avec beaucoup de regrets. Quand il est mort en 1897, eh bien, la ville de Hambourg, les navires qui étaient ancrés dans le port ont été mis en berne,
c'est
les drapeaux
ça.
Ont
mmh.
été mis en berne. Et il y a toujours quand même un anniversaire pour la mort de Brahms, qui repose quand même à Vienne.
Voilà.
Il repose à Vienne.
C'est là où il a eu sa célébrité quand même.
C'est là qu'il a eu sa célébrité. Et donc, c'est un Allemand du Nord.
Très taciturne quand même.
Taciturne, austère.
Oui.
Hein, mais qui aime la vie, qui sait être gay, qui sait vider bonne chope de bière, qui sait composer avec son éternel cigare, qui est d'aspect un peu, pas frustre, non, mais rugueux aussi.
Oui, oui, oui.
Rugueux, on
oui.
va dire. Rugueux, oui. austère, on dirait il a l'air marrant, voilà. Mais quand on le connaît, dur en affaire, amoureux de la nature, mais et surtout hypersensible.
Mais c'est souvent le cas.
Voilà.
Ceux qui paraissent durs, en général...
Voilà, on veut se protéger.
Mais peut-être.
On veut se protéger.
Peut-être.
Donc, et lui a composé cette valse un peu nostalgique, un peu triste, un peu mélancolique. Il faut se méfier. Hein, dans le Nord, ces regards qui n'ont pas l'air commodes, ils sont très, très sensibles, hypersensibles. Et on dirait même qu'ils pleureraient pour un rien. Et même quand ils chantent, ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux.
Ah,
comme
oui.
parfois les ceux du Sud.
Oui, c'est ça.
Voilà.
C'était un luthérien en plus.
C'était un luthérien, oui, luthérien strict, voilà,
ah ouais.
strict. On lisait la Bible, il lisait la Bible tous les jours,
mm-hmm.
et il avait collectionné les Bibles.
Voilà. C'était un grand lecteur.
Et c'était un grand lecteur. Dans son enfance triste aussi, difficile, pauvre, il a dû lutter pour...
Oui, parce que ses parents étaient quand même un peu bizarres. Sa mère était plus âgée que son
voilà,
mari.
C'était un couple étrange.
C'est oui. Le père, mais à la sortie, quand même.
Jacob, oui, le père était musicien avant tout. Oui. Musicien de la ville. Oui. C'était propre aux villes hanséatiques. Il était corniste et surtout contrebassiste.
Oui.
Et
oui.
Il a donné ses premières leçons à Brahms, qui était le second de la fratrie. Il y avait Élise, Johannes et puis Fritz. Voilà. Et puis la mère avait 20 ans de plus que le père.
Mmh.
Parfois c'est l'inverse. Eh bien cette fois c'était ainsi.
Sa maman, il
a beaucoup adoré. Brahms a beaucoup aimé sa mère.
Mais sa mère lisait beaucoup.
La mère lisait beaucoup, lui facilitait l'ouverture de
la
bibliothèque.
Oui. Mmh.
Et le père était toujours dans la musique, alors que Christiana,
la mère,
Nissen, de son vrai nom Nissen, N-I-S-S-E-N, elle aimait la lecture, et donc Brahms a hérité, le jeune Johannes a hérité de ce goût de la lecture. Et c'est un nordique, donc, comme vous avez dit.
C'est nordique, oui.
Un nordique qui aime le soleil, parce que le soleil
Malgré tout, lui
manquera. À Vienne, il aura le soleil, un peu plus du sud. Mais il aime bien ces paysages du nord, où le ciel est gris, le ciel est bas, où il y a du vent, il y a des mouettes, il fait froid. C'est un peu austère, on rigole pas. Mais quand on s'amuse, alors là, on danse sur les tables.
Un peu débridé.
Il faut faire attention. Quand ils s'amusent, ils savent s'amuser. On commence à minuit, on finit 6h du matin, mais pendant les 6 heures, on fait les fous.
Voilà.
Hein, les pauvres
jusqu'au
tables
bout.
Souffrent.
Oui, voilà.
Mais il faut se méfier, c'est pas le même tempérament que chez nous. Voilà.
Donc il fait des études et puis il se met à jouer très petit, il joue du piano.
Il va étudier avec des maîtres,
oui.
Avec Cosel, avec Eduard Marxen, et puis son père va lui trouver une place de pianiste dans les bars à Matelot, on
est
à Hambourg.
Voilà.
Donc
dans les cabarets
où il y a des dames de petite vertu,
c'est
on
ça.
Va dire.
Déjà très jeune, il
très
jouait.
Jeune, il est dans ce milieu-là,
oui.
Et sa sensibilité en prend un coup, parce qu'il comprend bien de quoi il s'agit.
Mais oui.
Et même, ça va être dangereux, parce que dans ces tavernes, on fume plein pot, on boit beaucoup, c'est un taverne à marin, il y a de la bagarre, et lui, petit garçon, il souffre, mais il ramène le matin quelques sous aux parents.
Ben, ça permettait de joindre les deux bouts à la famille.
Et oui, parce que c'était la pauvreté.
C'est ça,
le père jouait dans plusieurs orchestres de façon à arrondir les fins de mois, et lui, tous les soirs, eh bien, il va quand même voir le bon côté, il va jouer du piano, mais en même temps, il va travailler.
Ben, il travaillait dur quand même, parce que le matin, il composait.
Voilà, très tôt le matin, il composait, oui. En serrant ses chaussures.
C'est ça. Puis pour pouvoir le soir jouer dans les cabarets. Donc, il avait quand même une vie active, très active.
Il avait une vie active. C'était un bosseur, on va dire, un travailleur acharné,
très bosseur, oui.
Mélancolique, triste, mais pouvant être joyeux grâce à la musique. Et donc, dans ses bars, dans ses tavernes à Marin, à Matelot, eh bien, quand même, il venait la journée, parfois, pour faire de la composition, pour composer, arranger des marches.
Oui, et puis il produit avec des petits ensembles musicaux.
Des petits ensembles,
voilà.
Des petits concerts, il donnait. Parce que c'est un enfant prodige.
Et il donne quand même quelques leçons de musique.
Il donne déjà, justement, enfant prodige, Wunderkind.
Mmh.
Il donne des leçons déjà aux enfants, aux petits voisins.
Mmh.
Et puis il se fait obéir et tout le monde est content d'avoir Hannes.
Voilà.
Hannes comme professeur, il a peut-être 15-16 ans. Et tout ça permet de comme vous dites, de joindre les deux bouts.
Mmh.
Et il a un maître, c'est Jean-Sébastien Bach.
Oui, il est en admiration devant Bach. Oui.
Et il a un auteur qui vient de sortir un livre qui est remarquable, nommé Olivier Bellamy. Que l'on entend sur
Radio Classique.
Voilà. Qu'est-ce qu'il dit de Bach, le père éternel? Jean-Sébastien Bach sera un compagnon fidèle des jours les plus sombres de son existence, et même un frère bien-aimé. À la mort de sa mère, Johannes Brahms trouve la consolation dans les variations Goldberg qu'il joue de mémoire.
Magnifique, les variations Goldberg.
Voilà, un bel exercice.
Ah oui.
Pour la mémoire, déjà. Pour lui, la musique est la plus élaborée, se doit d'honorer l'art du sentiment. Ça, c'est tout Brahms. Certains musiciens n'hésitent pas à comparer Brahms à Bach, en ce qu'ils ont tous deux opèrent une synthèse des styles musicaux sans cesser d'être personnels.
C'est ça. Malgré tout, on retrouve la patte de Brahms, voilà, et de Bach.
Bach, c'est le socle, c'est l'architecture. Oui. L'idée est audacieuse, elle n'est pas absurde. Mais au fait, Bach, en allemand Bach, signifie le ruisseau. Et Brahms est né à 110 km de la mer du Nord. Donc la filiation s'impose, on va
dire,
tout naturellement. Beethoven n'a jamais vu la mer, alors Mozart non plus, alors que Brahms a vu la mer du Nord, la mer Baltique, mangeait beaucoup de poissons.
Il aimait beaucoup la mer.
Il aimait la mer, il aimait nourrir les mouettes. C'est un autre panneau de la vie des artistes. Voilà.
Donc il continue les talents de pianiste quand même, qui lui permettent d'être engagé à 13 ans dans des brasseries, tout ça.
Il travaille toujours.
Tout le temps, oui. Et alors il écrit certains arrangements, ça c'est sûr, voilà.
Il atteint des arrangements et puis très tôt, il aime diriger et surtout il aime diriger les chœurs, c'est avec un H, les chœurs de femmes.
Voilà, c'est ça.
Les chœurs de femmes, que ce soit pour le plaisir, que ce soit à l'hôtel de ville pour des cérémonies ou alors au temple. Ou à l'église, bien sûr, tous les jours, il y a un passage au temple à l'église pour la prière et en même temps pour le chant.
Voilà.
Car tous les jours, il y a un service, un culte. Nous sommes à l'Allemagne du Nord. C'est une façon de vivre, disons, le culte et la foi d'une façon différente. Et dans les temples, on se réunit pour discuter. Et on peut aussi déjeuner, on peut aussi casser la croûte,
voilà,
on va dire simplement.
Oui.
Manger un hareng et entre deux concerts ou entre deux prières, pour faire en gros comme ceci. C'est une façon de vivre très particulière. Et puis, nous savons qu'il a un talent créateur tout à fait exceptionnel. Et une de ses natures, comme il n'en produit que très peu.
C'est vrai.
Son jeu est plein de feu.
Oui.
Alors qu'on sent quand
d'une
on
énergie,
le regarde...
quand même. D'une
énergie. Quand on le regarde, il est blond, les cheveux très longs. On dirait un jeune homme.
Charmant,
encore.
Oui.
Une énergie fatale, une précision rythmique qui révèle l'artiste. Ces compositions contiennent plus de choses intéressantes que je n'en ai jamais rencontrées dans les œuvres d'un jeune homme de son âge,
voilà,
nous dit son grand ami le violoniste Joachim,
voilà,
qui a fait cette remarque en voyant le jeune Brahms jouer, qui passe des journées à travailler, à jouer, à faire ses gammes, mais qui en même temps se préoccupe du programme pour l'église, du programme pour le temple et encore du programme pour le soir,
pour sa famille,
mais la famille et en même temps dans les tavernes.
Voilà,
donc selon les rites, selon les lieux, il adapte et comme ça il se perfectionne terriblement.
C'est très modulable.
Au piano. Voilà, il travaille beaucoup.
Et mais son piano faisait corps avec lui quand même.
Le piano, c'est toute sa vie.
Oui,
il faisait corps avec lui. C'est très bien de dire corps avec lui parce que je fais un jeu de mots. Le corps, l'instrument, le corps naturel était comme la clarinette.
C'est vrai.
Et
voilà.
Le piano.
Parce qu'il a fini après pour écrire,
voilà,
pour des clarinettes.
C'était l'instrument, les instruments chers à Brahms.
Oui.
Le corps qu'on entend dans la forêt, le corps naturel, pas le corps d'harmonie, le piano, vous l'avez dit, et sur la fin de sa vie, la clarinette, c'est-à-dire le violon aussi, qui permet un registre très très vaste et très 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 charpenté. Et ces trois instruments, on sait qu'il en a beaucoup joué. Voilà. Et donc il va rencontrer un ami il y a une année, où il rencontre un couple qui va être important.
C'est
donc Robert Schumann et son épouse Clara, la grande passion de Brahms.
Ça va être sa passion.
La grande passion. La grande amitié, peut-être amitié rapprochée aussi. Voilà, nous n'y étions pas, on n'y était pas.
Oui, mais enfin, il y a quand même quelques lettres qui...
Voilà, il y a des lettres...
Oui, qui laissent à présumer quand même.
Et j'ai trouvé deux lettres, alors on va les lire. On va les lire, si vous voulez. C'est une lettre du 25 novembre 1854. Il écrit à Clara. « Très chère amie, comme le tu intime me regarde tendrement. » Mille merci pour cette lettre, je ne peux pas m'arrêter de la regarder et de la relire, comme si je lisais pour la première fois. Rarement les mots ne m'ont en manqué que lorsque j'ai lu votre dernière lettre. Bon, on ne peut pas être moins clair.
Et dans la lettre du 31 mai 1856, il lui écrit très clairement
« Oui.
Ma bien-aimée Clara, je pourrais t'écrire tendrement comme je t'aime et combien je te souhaite de bonheur et de bonnes choses. Je t'adore tellement que je ne peux pas l'exprimer. Je voudrais t'appeler pour te dire des chéris et d'autres termes affectueux sans en être rassasié, pour te courtiser. Tes lettres sont pour moi comme des baisers. »
Voilà.
Ah, bon, ça veut vous dire
dit.
Beaucoup de choses,
tout
là, oui.
Dit. Tout est dit. Et alors, le mari, Robert Schumann, très tôt a décelé le génie du jeune Johannes.
C'est ça, oui.
Et il va écrire dans un journal, ça va être l'article qui va lancer Brahms,
voilà,
on
c'est
va
ça,
dire.
Oui.
Aujourd'hui, on dirait le booster, mais
oui.
Parlons français, qui va le lancer.
Sur les passions.
Mmh. Mais avant les passions, il y a d'abord l'article de presse
c'est
du 25
ça, oui.
octobre 1853.
Mmh.
Que dit Johannes Brahms? Que dit Robert Schumann? Il est venu, cet élu, au berceau duquel les grâces et les héros semblaient avoir veillé. Son nom est Brahms, il vient de Hambourg. Dès qu'il s'assoit au piano, il nous enchaîne dans de merveilleuses régions, nous faisant pénétrer avec lui dans le monde de l'idéal. Son jeu, son génie, changeait le piano en un orchestre de voix douloureuses et triomphantes. C'était des sonates où perçait la symphonie, des lieders dont la poésie se révélait, des pièces pour piano unissant un caractère démoniaque à la forme la plus séduisante, puis des sonates pour piano et violon, des quatuors pour instruments à cordes, et chacune de ces créations, si différentes l'une de l'autre, quand elles paraissaient s'échapper d'autant de sources différentes. Quand il inclinera sa baguette magique vers de grandes œuvres, quand l'orchestre et les chœurs lui prêteront de puissantes voix, plus d'un secret du monde de l'idéal nous sera révélé. Donc,
il lui prévoit un bel avenir.
Voilà, l'avenir est tout à fait tracé et nous voyons que Brahms s'en souviendra et il se souvient aussi qu'il parlait beaucoup passion avec
oui.
Clara et il aura ces mots, les passions n'appartiennent pas aux hommes comme des choses naturelles.
Ils sont toujours des exceptions ou des exagérations.
Je vous laisse finir.
Celui chez qui elle dépasse les bornes doit se considérer comme malade et songer à un remède pour sa vie et sa santé. Les passions doivent vite s'estomper ou alors il faut les chasser.
Ou alors il faut les chasser. Oui, comme disait Napoléon, en amour, il n'y a que la fuite.
Et la fuite, oui.
Voilà. Bon. Si vous croyez devoir atteindre le pire, accordez-moi quelques mots avec lesquels je peux venir voir s'ouvrir encore les beaux yeux avec lesquels beaucoup se refermeront pour moi. Cela est écrit un an avant sa mort, 1896.
C'est ça.
Brahms est resté en liaison toute sa vie avec Clara, toute sa vie.
Mais même si elle a rompu quand même.
Elle a rompu, elle a pris de la distance.
Oui, elle a pris de la distance.
Mais
oui.
Lui, toujours resté follement amoureux.
Oui. Oui, oui.
Mais avec son caractère... il était déjà amoureux de sa mère, on va dire.
Oui, il a eu deux grandes passions dans sa vie. Il a eu sa maman
mère,
et puis Clara, voilà. Clara Schumann.
Et quand sa mère est décédée, eh bien, il s'est mis à composer.
Mm-hmm.
Et on va passer bientôt à l'œuvre assez importante.
L'œuvre maîtresse, quand même.
Les quatre symphonies, ce fameux Requiem allemand.
Ouais, ouais.
Requiem, c'est-à-dire messe des morts. Mais là, ce n'est pas une messe des morts. Il s'agit plutôt d'une méditation sur la mort. On retrouve le luthérien.
C'est ça.
À partir de textes extraits de la Bible, donc en allemand, de Martin Luther.
Il a mis très longtemps à le composer, ce Requiem.
Il a commencé après la mort, 1856, la mort de Schumann. Ça commence déjà dans sa tête un peu.
Oui, c'est ça.
Après Schumann, il veut écrire quelque chose en souvenir du grand Schumann qu'il avait lancé. Et puis, il y avait Clara aussi dans l'ombre.
Mais bien sûr.
Mais il commençait déjà à y penser. Il faut attendre le début février 1865, décès de la mère,
oui, oui.
Qui était adorée et tout.
C'est ça.
Eh bien, pour ça, disons qu'il va se décider à travailler, à se mettre à cette œuvre magistrale, comme disait Bernstein, qui a beaucoup joué Brahms aussi à New York. Et donc, c'est cette œuvre qui va être poussée par deux morts, finalement.
C'est ça.
Pour ça qu'on s'interroge sur la mort, finalement. Eh bien oui, il y a Schumann, et puis la mère.
Et sa maman.
La mère. Mmh. Le père, ensuite, s'est remarié avec une jeune femme. Mais il a été content, Brahms. Et comme ça, son père n'était
il
pas...
Il a accepté,
il
oui.
a accepté Carolina. Mmh. Mais comme ça, son père n'était pas seul.
C'est ça.
Voilà. Et il s'est très bien entendu avec la deuxième Frau, la deuxième Madame Brahms, on peut dire. Voilà. Donc... il va avoir des postes plus ou moins différents. Il va toujours diriger des chœurs féminins. Il écrit pour les voix de ces dames. Il écrit pour le temple, pour l'église. Il commence quand même à écrire pour lui des concertos numéro 1, toujours pour piano. Et en 1859, le revoilà à Hambourg, espérant avoir enfin ce fameux poste.
Oui, mais là, non, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Donc, amer, puisque c'est ça, au revoir Hambourg, bonjour Vienne.
C'est ça.
Vienne, Autriche, la ville de la musique, Mozart, Beethoven, Haydn, tous les grands de ce monde. Et d'ailleurs, quand on au grand cimetière de Vienne, au cimetière central, au grand cimetière, dans le carré des compositeurs, vous avez Beethoven, à côté il y a Brahms, et à côté il y a Schubert. Devant, il y a un monument vide, en
parce
mémoire
de
Mozart,
oui, ouais.
Et derrière, il y a les Strauss.
Oui, voilà. C'est vraiment les voilà. musiciens.
C'est le groupe numéro oui. 32 oui. et la tombe 26, un très beau monument qui fut inauguré en 1903. Voilà. Les amis de Brahms, les Viennois, ont fait ce qu'il faut pour faire ériger des monuments qui avaient beaucoup d'allure, sobres mais quand même beaux. Et donc, il va arriver à Vienne, comme nous avons dit. Il se souvient de l'ode d'un poète autrichien, un nommé Grillparzer.
Oui.
Au beau pays, ô patrie.
Ah, cet enfant, l'Italie et cet homme, l'Allemagne, tu t'entends adolescent aux joues roses.
Tu t'entends adolescent aux joues roses, voilà. C'est pas le même climat.
Ah non,
c'est
pas le chose.
Climat,
ah,
c'est, ouais. le, c'est un peu le sud. Un peu le sud par rapport aux brumes du nord, qui ont beaucoup de charme. Et donc, plutôt que d'expliquer un peu, le mieux c'est d'écouter le début, le numéro 2, le mouvement numéro 2
du Requiem.
Du Requiem. C'est un morceau impressionnant qui peut devenir très doux, mais en même temps très fort. Il faut faire attention, et qui est prenant. Voilà. Eh bien,
c'est fort ce requiem.
C'est-à-dire
c'est parce que c'est très prenant.
C'est très prenant.
On connaît le requiem de Mozart ou de Verdi. Alors, c'est écrit en plus en allemand.
Oui, et parce que c'est d'après les textes
de la Sainte Écriture, de la Bible, oui, c'est
de
ça,
Bible de Luther. Oui, oui. Pour ça qu'il l'appelle un requiem allemand.
Allemand, voilà,
alors
c'est
que
ça.
Les autres sont en latin.
Latin, voilà. Voilà. Oui, oui.
C'est Luther qui est là. Et c'est la langue
mais
allemande.
Mais il a une puissance énorme, ce requiem.
Oui, et surtout ce deuxième mouvement,
oui, oui.
C'est une marche.
Oui.
C'est la marche des Hébreux. Les Hébreux dans le désert, mmh. Et qui vont arriver devant Jérusalem.
C'est ça.
C'est la Bible qui est là, c'est le luthérien. Alors, il a eu un succès faramineux, ce requiem. Et moi, je l'ai écouté.
C'est drôle parce qu'on le connaît, Brahms, beaucoup plus léger.
Ah, plus léger,
c'est
ah,
ça.
Oui, plus
ouais.
Populaire même.
C'est ça, voilà.
Voilà,
oui.
On verra
oui.
Tout à l'heure, oui. Les danses hongroises.
Ah, oui.
Alors que là, c'est une œuvre qu'il porte en lui
depuis très, très longtemps.
Depuis,
ouais.
Depuis très longtemps.
Ouais.
Et moi, je l'ai écouté deux fois, une fois à Lyon, à Saint-Maud-l'Aventure,
c'est
vous
vrai.
Qui êtes lyonnaise.
Oui.
Et à Brême. Et alors, la tradition veut que ce soit le soir. Et nous, on était plongés dans l'obscurité, dans
oui.
La pénombre. Ça donne la chair de poule.
Bien sûr.
Il n'y a que l'orchestre, bien sûr. Les pupitres sont éclairées. Mais
c'est plus impressionnant.
Le public est plus impressionnant. Et dans l'obscurité, tout ça, dans l'église, tout ça. Et je me souviens, ça fait une drôle d'impression. Mais ça colle bien avec l'œuvre
oui,
voulue par Brahms. Donc, la première, ça a été dans la ville de Brême, pour le Vendredi Saint du 10 avril 1868. Et
ça a été bien accueilli.
Bien accueilli, bien accueilli. Et ça correspond bien à l'esprit du Nord aussi.
Oui,
un
c'est
peu.
Ça. Ouais.
Et puis ce sont des luthériens qui vivent avec la Bible, il faut
oui.
Voir les choses.
Ouais.
Et après, il y a une deuxième, c'est le chef d'orchestre Rheinthaler aussi, qui est en même temps organiste, qui a dirigé. Mais ça a été une œuvre tout de suite qui a remporté
un grand
succès, sauf en France.
Oui.
Sauf en France, parce qu'on n'a pas bien compris. Le français n'a pas tellement compris. Et le critique du Figaro de l'époque, ou même un peu plus tard, qui s'appelait Gabriel Fauré,
en plus,
qui est du Sud, qui est de Pamiers, dans l'Ariège, par rapport à une œuvre
nordique
et tout, il a trouvé quand même que c'était bien écrit.
Oui, mais il y avait un décalage.
Mais il y avait décalage par rapport à l'oriental, comme on
oui,
l'appelait,
oui.
Plutôt méditerranéen, un peu espagnol. Et là-haut, tout là-haut, dans les brumes, cette musique très forte, très prenante.
Oui, mais le requiem, c'est aussi ça. Hein.
Le requiem,
mais même
c'est
chez Mozart.
Aussi ça. C'est... Ah,
c'est
Mozart,
voilà.
C'est tout à fait.
Chez Verdi ou chez Fauré aussi,
voilà,
qui a fait un requiem.
Ah oui, ah, ben, oui. C'est le superbe.
C'est ça, voilà.
C'est le superbe. Je regardais ce matin encore les requiem composés dans le monde entier. Le premier qui arrive, c'est Mozart.
Mozart, oui.
Le Mozart. Le deuxième qui arrive, c'est Fauré.
Oui.
Après, il y a Verdi. Et après, il y a Brahms qui arrive.
C'est en dernier, d'accord.
Oui, et ensuite, il y a toute une liste. Il y a toute une liste. Lui, il est numéro 4. Bon.
C'est déjà bien, quand même.
C'est déjà pas mal. Mais c'est une œuvre qui a eu un grand succès dans les pays germaniques et qui a fait un tabac, si on peut dire, si vous me passez l'expression, en Amérique.
Ah oui.
New York, beaucoup d'Américains d'origine allemande. Alors, New York, Chicago, beaucoup d'Allemands. Washington, enfin les grandes villes américaines, et encore maintenant quand on donne le requiem allemand de Brahms, eh bien on le joue plusieurs semaines.
Oui.
Plusieurs semaines. Donc c'est une œuvre très particulière et qu'il a portée longtemps, comme on dit, et donc c'est des extraits, c'est en même temps dédié à sa mère.
C'est ça.
Et donc quand il l'a joué pour la première fois à Brême, il manquait un morceau, il marquait un mouvement, parce qu'il a encore bébé. Il n'était pas au point.
Et mais finalement, il était revenu sans arrêt.
Il est revenu sans arrêt.
Ce requiem,
c'est souvent le cas.
Ouais, ouais.
Et le mouvement numéro 5, le mouvement est dédié à sa mère.
Sa mère, oui.
Je
oui.
Cite quelques extraits. C'est tiré du Nouveau Testament.
Oui.
Vous aussi, maintenant, vous êtes attristés, mais je vous reverrai et votre cœur s'en réjouira
oui.
Et votre bonheur, personne ne vous l'ôtera.
C'est ça.
Voilà. Il y a encore, voyez,
oui,
pendant un peu de temps, allez-y, la peine...
Et le travail ont été mon lot, mais j'ai trouvé une grande consolation. Ça, c'est dans l'Ecclésiaste.
C'est l'Ecclésiaste.
Oui.
Et pour finir, le cœur...
Je vous consolerai comme une mère console son fils.
Voilà, c'est-à-dire un échange entre la mère, la mère et le fils, toujours. Et ça, je ne dirais pas que ce sont des éléments porteurs, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, dans ce requiem, ein deutsches requiem, ein, c'est-à-dire il y en a un, il est de langue allemande, à cause des textes de la Bible de Luther,
oui, c'est ça, oui.
Deutsch, et puis requiem, et puis ce mot qui est important et qui fait partie de l'histoire allemande et même de l'histoire générale, au point de vue musical. Mm. Il faut se rappeler aussi qu'à Vienne, il avait eu le cadre et la tranquillité pour composer.
C'est vrai.
Il était bien, il avait un chez-soi agréable, voilà. Il prenait ses repas à la même auberge, c'était une vie assez réglée, très minutée, c'est ainsi. Et
Il a acquis une certaine aisance aussi.
Financièrement,
c'est
oui,
ça,
il
n'était
pas pauvre. Il n'était
voilà,
pas pauvre.
C'est ça.
Et quand il sortait, les gamins du quartier l'attendaient.
Mais
parce
oui.
que quand ils le suivaient toujours, car ils savaient que ses poches étaient pleines de bonbons et de petites monnaies.
Petites pièces.
Donc le regard un peu austère ne leur faisait pas peur.
Non, ils avaient appris à le connaître.
Voilà. Et Beethoven a parlé de Vienne, mais c'est Beethoven qui a écrit ces lignes. Ça pourrait être aussi Brahms.
Brahms, oui.
Voilà, qu'est-ce qu'il dit ? Que je sois bien plus à l'aise dans la campagne que parmi la foule, on le comprend facilement. Pas de journée que je ne me promène dans l'un de ces beaux jardins qui sont l'orgueil et la parure de la ville. Mes vrais amis, ce sont les verts bocages. Les arbres élancés, les fraîches retraites où bruissent les ruisseaux, les ceps de vigne qui, des collines, tendent leurs grappes au soleil. Là, il n'y a ni jalousie ni fourberie.
Voilà,
dit
c'est
Beethoven,
direct.
C'est
voilà.
direct, ça c'est du Beethoven, direct aussi.
Oui.
Il sera aussi à Vienne, hein, il habitera à Vienne aussi, ils seront tous regroupés à
Là-bas,
Vienne.
Là-bas, oui.
Voilà, et donc...
il va y avoir les 3B.
Il y avait les 3B.
En Allemagne.
Et oui, avant nous on avait Bébé, hein, bien sûr, Brigitte
là-bas,
Bardot.
Là-bas c'est,
bien.
C'est les 3B.
Les Allemands, c'est le chef d'orchestre Hans von Bülow,
oui, c'est ça.
Son grand ami, qui a dit, pour l'Allemagne il y a les 3B. Il y a Bach, Beethoven et Brahms. Voilà, c'est très curieux. Nous sommes donc vers les années 1868, mais en 64, nous nous rappelons 64, 4 ans en avant, en arrière, parce que c'est l'année où il rencontre Wagner.
Oui.
Richard Wagner. Oui. Bon, les deux génies se sont appréciés, mais on est resté un peu...
À chacun chez soi.
Voilà, voilà.
Oui.
Et puis c'est l'année où ses parents se séparent. Pour l'époque, c'était un rude coup pour Brahms, et c'était pas tellement dans les mœurs.
Mais à l'époque,
et
non.
Le 1er février 65, c'est la mort de la maman de Brahms.
Ça.
Hier, à 1h de l'après-midi, nous l'avons enterrée. Son visage dans la mort n'a pas changé. Elle avait l'air doux et bon comme la vie. Rien ne peut nous consoler d'une pareille perte, et particulièrement ma sœur Élise, mon aînée. Nous ne devons pas nous plaindre de la cruauté du sort qui nous a laissé notre mère jusqu'à l'âge de 76 ans.
C'est une lettre voilà. qu'il avait écrite à Clara.
À Clara, voilà.
À Clara Schumann.
Voilà, le 5 février.
Voilà, c'est ça, oui.
Donc, après les obsèques, il aurait eu ce mot, « Je n'ai plus rien, il faut que je me marie ».
Mais il ne va pas trouver à se marier.
Ah, eh ben non, c'est-à-dire, il ne va pas trouver à se marier.
Il n'a rien fait.
Il n'a rien fait pour, et donc, il devient le vagabond. Il devient
oui,
le vagabond,
un peu,
comme,
oui.
comme il se disait. « Je suis le vagabond ». Et néanmoins, c'est un caractère qui lui permet de remonter la pente.
Oui, il a cette force-là.
Il a cette force-là,
ouais, ouais.
C'est un fort, je dirais pas un costaud, mais c'est ça.
Non, mais il a un tempérament assez costaud.
Il remonte,
oui,
voilà,
c'est ça,
il remonte la pente, après les épreuves l'endurcissent ou le mûrissent. La solitude et la pauvreté ne causent point de tort au tempérament vraiment fort.
C'est ça.
Au contraire, elle les contraigne à s'approfondir et provoque encore une sainte colère, le zèle sacré de vaincre, coûte que coûte, contre l'opposition du monde.
Voilà.
Bon, il nous donne
une
leçon.
C'est ce qui lui donnait sa force. Voilà.
Voilà. Il nous donne un peu une leçon de vie, si on peut dire. 1870, chez nous, c'est la guerre franco-prussienne.
Oui. Ah, oui.
Aïe, aïe, aïe. On fête le 150e anniversaire cette année.
Oui.
Et oui, la perte de l'Alsace-Lorraine. Mm-hmm. Boum. Et la Commune a pris le rétablissement de la République.
Et mais lui écrivit Bismarck quand même, lui.
Il aimait Bismarck.
Ah, c'est ça, Brahms, oui, vive Bismarck. Voilà.
Bismarck, parce qu'il a réuni l'Allemagne.
C'est ça. Ah voilà. Oui.
Eh bien oui, le pays était coupé, lui, il recolle. Et alors, il va composer un chant de triomphe qu'on lui commande,
oui.
Triumphlied, qui sera un grand succès.
Mm-hmm.
Et puis aussi, en mémoire des soldats prussiens et allemands qui ont été tués dans les églises, on jouera le requiem.
Le requiem.
Allemand, en mémoire, parce qu'ils ont eu des pertes aussi. Il n'y a pas que nous. Et ça fait mal parfois. Donc on jouera le requiem en souvenir des morts, des soldats tombés à la guerre. Chaque pays fait ainsi. Voilà. Et puis la ville de Hambourg suit de loin, mais avec une admiration plus ou moins secrète,
oui.
Et un peu amère de voir que son rejeton...
C'est ça, il est parti.
Maintenant...
C'est Vienne qui l'accueille, la Vienne impériale quand même.
La Vienne impériale, où la joie de vivre est là.
C'est ça.
La musique est partout, comme on dit, sur le trône comme sous le chaume.
Oui, c'est ça.
Sur le trône comme sous le chaume. Il aura des difficultés quand même à Vienne, parce que son caractère du Nord fera qu'il sera moins souple qu'un vrai Viennois.
Ah.
Et oui, donc il va diriger les sociétés des amis de la musique. Les programmes seront au goût de Brahms, mais pas au goût des Viennois, parce qu'il fait appel à des compositeurs peu connus. Il veut donner sa chance aux autres aussi.
Mm-hmm.
Et donc, on le remercie, il s'en va.
Voilà, c'est ça.
Mais à la fin de sa vie, toutes ces archives iront au Musikverein, c'est-à-dire à l'association de la musique littéralement,
oui.
dont on voit cette belle salle pour le concert de Nouvel An.
C'est voilà. Toutes les archives
de Brahms sont là-bas. Il y a même, pour la musique de chambre, la Brahms Saal, une petite pièce, 800 personnes à peu près.
Aussi petite que ça, finalement.
Voilà, mais les autres sont...
Mais c'est gigantesque, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. Et donc, Brahms aura sa salle en souvenir de ces années passées à Vienne. Et puis ensuite, va arriver enfin le moment de la symphonie.
C'est ça, il va commencer à composer ses œuvres symphoniques.
Il commence ses œuvres symphoniques, il a attendu très longtemps.
Oui.
1880,
1867. Il va en composer quatre, je crois.
Il a écrit beaucoup de musique religieuse, beaucoup de lieder, c'est-à-dire de chants ou de chansons dont les textes étaient des poèmes. Schubert en a écrit 600, lui en a acheté 300. Beaucoup de musique liturgique, des concertos pour piano.
C'est ça, oui.
Ensuite, il y a des quintettes, beaucoup de musique de chambre pour violon, clarinette,
pour
le corps.
Il a écrit plein de concertos aussi.
Aussi utilisation du corps, le corps naturel, la clarinette, les violons, le basson, la contrebasse, chère à son père, le piano. Et puis, en 1876... Eh bien, ça va être la première symphonie. Ici, Métard, il écrit un concerto pour violon. Il écrit le second concerto pour piano. Et puis, voilà la première symphonie qui est jouée en 1876 à Karlsruhe, proche de Strasbourg. La seconde à Vienne, en 1877. La même année, il reçoit le titre de docteur honoris causa de l'université de Cambridge. Bon, il ne l'aura pas parce qu'il n'est pas allé le chercher.
C'est ça.
Voilà.
Et celui de l'université, il a reçu de Breslau.
En 83, Wiesbaden, près de Francfort, il termine sa troisième symphonie créée aussi à Vienne. Et puis, en 84, c'est la fameuse quatrième, peut-être celle qui est la plus jouée avec... Toutes les quatre sont bien jouées.
Oui, c'est vrai qu'on la connaît plus, peut-être.
On la connaît un peu plus avec le mouvement, l'extrait du mouvement que nous allons entendre dans quelques minutes. Ces symphonies, c'est de la musique... C'est un peu lourd, mais en même temps, c'est très rythmé.
Oui, c'est ça.
C'est classique tout en étant romantique. On va dire que Brahms a été le
compositeur. Il est écrit d'une façon passacaille, je crois.
Cette chaconne, cette danse à trois temps.
Voilà, chaconne, c'est une danse populaire sud-américaine.
Sud-américaine, Mexique aussi, à trois temps, qui est lente. Sur une basse contrainte. Donc, ces symphonies sont très connues, mais il faut les écouter souvent pour pouvoir les digérer.
Les apprécier.
Je me souviens d'un professeur de philo que j'ai connu à Bourg, qui était M. Raymond Cour, qui a été professeur de philo au lycée Lalande, ensuite professeur à l'université de Lyon. Il avait la chaire de musicologie,
oui.
Et il nous disait toujours, Brahms, pour s'en imprégner, il faut beaucoup l'écouter.
Mais
la
c'est
différence
vrai.
De oui. Beethoven. Beethoven, mmh. l'accès plus facile.
Mmh.
Bach, c'est pas des symphonies. C'est
Mozart
passions.
Aussi, c'est facile.
Voilà. Alors que
oui,
Brahms,
oui.
il faut se
l'écouter plusieurs fois.
Il faut un effort.
Surtout ses symphonies, je crois.
Surtout les symphonies mmh. qui sont très bien écrites, qui mmh. sont très bien élaborées, je dirais même charpentées.
Oui.
Et donc, nous allons écouter le troisième mouvement, qui est bien connu. Le troisième mouvement de la symphonie numéro 3, 1883, Poco Allegretto. Nous retrouvons le calme. On dit que cette symphonie, c'est la symphonie de l'automne.
Oui.
Voilà. Et il y a toujours des tableaux ou des pochettes de disques avec de la forêt en automne.
C'est ça.
Des feuilles mortes. Oui. Donc, c'est ces quatre symphonies. Ensuite, ben, il ne va plus beaucoup composer.
Parce qu'il a dit, il y a 57 ans, qu'il voulait arrêter les compositions.
Voilà, il veut arrêter, bon, il va se reposer.
Malgré tout, il va continuer de composer.
Il veut voyager. Chaque année, il allait en Italie quand même. Ou en Sicile, ou en Suisse. En Suisse alémanique, il se promenait. Il écrivait le français à la perfection. Il l'avait appris très, très tôt à l'école. Parce qu'il pensait que la langue française était la langue des diplomates.
C'était ça à l'époque.
C'était ça. Et sa mère lui avait dit d'apprendre la langue française. Un peu d'anglais, parce qu'on était à Hambourg, le commerce. Mais c'est toute sa langue. Et sa langue de prédilection était un peu le latin aussi.
Oui.
Et bon, l'allemand, bien sûr. Mais le français.
Voilà.
Et les dernières années vont être difficiles. Beaucoup d'activités. On dirait pas que c'est un dieu, mais presque. Presque.
Un peu déifié, oui, c'est
un
vrai.
Un petit peu, quand même.
Oui,
ouais. Et il disait, je préfère penser à une belle mélodie que recevoir une distinction honorifique. Voilà, il préférait avoir une belle mélodie. Et puis, peu à peu, ben, la maladie, un beau jour, va se déclarer. Le foie va donner des signes de fatigue.
C'est ça.
Comme le père, d'ailleurs. Et le 3 avril 1897, il va rendre l'âme chez lui, à Vienne. Et les obsèques seront des véritables funérailles pour se retrouver au Zentralfriedhof, c'est-à-dire au grand cimetière, au cimetière central, pour rejoindre le carré,
des
compositeurs. Et il y a toujours beaucoup de monde qui vient sur les tombes de tous ces compositeurs classiques et même modernes, où il y a des acteurs aussi, bref, Kurt Jürgens et d'autres,
oui,
etc.
Ouais.
Et pour finir, eh bien, avant de partir grâce à une danse hongroise, parce que la Hongrie n'était pas loin,
oui.
Musique populaire et plus légère, si on peut dire. En conclusion, que nous disait Romain
Goldron. Il est peu d'artistes qui soient descendus aussi profond dans la vie obscure de notre inconscient. Brahms est de cela, lui, qui approche aussi près du royaume des pénombres, où règne ce que Goethe appelait les mers, les pénombres de l'âme, les pénombres aussi de la forêt allemande, avec ses clairières, ses étangs enchantés, avec ses fêtes secrètes, ses mystères, ses sonorités magiques de corps. Voici, semble-t-il, le monde particulier de Brahms.
Eh bien, nous remercions Pauline et nous repartons, nous quittons Vienne avec la danse hongroise numéro 5, 1869, sous la baguette de Claudio Abbado. Merci Gisèle et au revoir, à une prochaine fois.